Y a continuación, le ofrecemos.
Hola, ¿qué hacen aquí en el parque sentadas en el pecho?
Es que estoy tratando de conectarme por internet con nuestros amigos franceses por correspondencia. ¿Te acuerdas que ellos nos mandaron sus direcciones electrónicas en las cartas?
Ay, la conexión está de madre, caballero. Esto está imposible aquí.
¿Y qué? ¿Ya se conectaron? ¿Está buena la conexión?
Como siempre. Llevo 15 minutos y aún no me abre el chat.
Ya, se me acabó la tarjeta.
Caballero, se me acabó el saldo. Vámonos.
Mira, se me ocurre algo. Vamos a la Alianza a comunicarnos con ellos por radio. La radio sí funciona en La Habana.
¡Bueno, dale, que se va la voz!
¡Dale, caballero, dale!
¡Dale, caballero, mira, corre, que va a parar!
¡Salud de France! ¡Nous sommes vos correspondants cubains!
¡Bienvenue à notre émission des adolescents cubains!
¡Avec le thème!
¡Vivre ici, vivre là-bas!
Pour répondre à vos questions, nous informons qu'à Cuba, le climat est très chaud.
Oui, et c'est pour ça qu'on s'habille avec des vêtements très légers. On porte des shorts à la mode américaine et des couleurs très gaies.
J'avais d'autres questions.
Nous parlons espagnol, français et un peu d'anglais.
À l'école, on parle l'espagnol, évidemment, et l'anglais pendant nos cours d'anglais. Dans la rue et à la maison, on continue à parler l'espagnol, parce que c'est notre langue maternelle.
Le français, on le parle le dimanche à l'Alliance française. Et vous voulez savoir un peu plus sur la musique cubaine?
Creo que Buena Fe, más que un grupo musical, es un grupo que se ha encargado de atrapar a casi toda la población cubana, no solamente por la música movida, pegadiza, el ritmo del cubano, que lo mismo pueden cantarte una balada que una rumba, no solamente por eso, sino porque expresa mucho de lo que nosotros día a día pensamos y no sabemos cómo decir.
Bueno, soy Israel Rojas Fiel, el director de Buena Fe.
Despedida. Despedida. Que usted dice, soy mucho de lo que intentaste, pero un tanto de mi tiempo. Mi voz no se engaña, soy de tu misma montaña, pero habito en Sotavento. La montaña, que en este caso serían nuestros padres, ¿no? Y el Sotavento, que seríamos nosotros, ¿no? ¿Por qué hay tanta diferencia? ¿Por qué esta juventud ahora es tan diferente?
Mi hijo, por ejemplo, que tiene 15 años, que ya es un joven, estamos supuestamente en el mismo pastel, aunque estemos en capas distintas, tiene preocupaciones que no son las mías. A mí me tocó ver el derrumbe del campo socialista, a mí me tocó pasar el periodo especial más duro. Tuve diferentes visiones de la Cuba que me tocó vivir. Una Cuba de los años 80, donde no faltaba de nada, una Cuba de los años 90, donde faltaba de todo, y la Cuba de los años 2000, donde sí puede haber de todo si tienes el dinero. Entonces, a mi hijo le tocó ver una Cuba, esa Cuba. Entonces, si te vienes a dar cuenta, son diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de tener puntos de vista sobre una misma realidad, porque es que el mismo país, pero a la vez es un país diferente para cada una de las individualidades que lo componen. Despedida es una canción que habla justamente sobre eso. Habla sobre habla de la emigración en dos sentidos. En el sentido del que se va y sus razones legítimas, y el sentido del que se queda solo en sus razones legítimas. Entonces, a mí me parecía que lo interesante que queríamos transmitir con la canción era también ese punto de vista, porque canciones que hablan sobre la necesidad de volar hay muchas, pero canciones que reflexionen sobre qué pasa después que vuelas y la gente que se queda aquí solita, en sus casas, absolutamente sola, en un espacio que no lo llena la remesa, no lo llena una llamada por teléfono, sino lo llena la soledad más rotunda de gente a la que supuestamente tú adoras. También podía ser una temática interesante y fue la que quisimos transmitir en la canción.
J'ai toujours vécu à Centro Havana et je rêve de déménager. Il y a du bruit, c'est sale, je trouve ça marginal. Je me sens pas comme les autres gens de quartier. À l'école, j'étais la seule blanche aux yeux bleus, seule qui allait au cours de ballet et qui déteste le redon. Quand j'étais petite, je me sentais pas bien d'être différente et j'ai lutté avec ça tous les jours. Plus tard, j'ai commencé à étudier le français au Vedado. C'est un quartier complètement différent. Je dis toujours à ma mère que quand je vais à l'Alliance, je me sens dans un autre monde. Tout est plus calme, je me sens comprise et acceptée, c'est plus fluide. Quand j'ai commencé à connaître d'autres quartiers et d'autres personnes, je me suis rendu compte que je n'étais pas différente, juste différente des gens de mon quartier. Je n'aime toujours pas mon quartier, mais je me sens plus tranquille, même si je suis différente. Ça n'a plus d'importance pour moi, ces différences.
Bienvenido a la Alianza Francesa. Le vamos a hacer una entrevista, pero primero le pedimos que se presente y diga su profesión.
Mi nombre es Nelson Aboy. De profesión soy antropólogo social y cultural, o sea, lo que se conoce como etnólogo. Y adicionalmente estoy consagrado en tres cultos de antecedentes africanos en Cuba. Palo Monte, La Santería y Babalá, Ifá.
Entonces, ¿usted considera que el hecho de ser babalao y etnólogo a la vez considera que es una ventaja para su estudio?
Obviamente sí. Por lo tanto, evidentemente, el hecho de ser yo un practicante durante tantos años dentro de este culto religioso, obviamente es, digamos, un código cultural con el que yo opero sistemáticamente, que forma parte de mi vida sistemática y diaria. Y siendo antropólogo, pues me es muchísimo más fácil poderlo investigar sin prejuicio, sin ponerle ni quitarle en su justa realidad, porque el antropólogo no se puede prejuiciar ni a favor ni en contra. Pues eso me permite, me facilita acceder a qué se hace, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos, y poderlo explicar desde la perspectiva antropológica y desde la perspectiva etnológica, cosa que al académico simple le es más difícil porque está fuera y tiene que limitarse única y exclusivamente a la entrevista del terreno, a lo que le quieran decir, a lo que le quieran ocultar y a lo que quieren considerar como secreto. Y por lo tanto, para mí, esos valladares, ¿no? Esos tabúes, esas barreras, no se me dan, se me facilita acceder a ellos. Pero mi fuerte realmente de investigación es explicar, desde una perspectiva antropológica, los procesos religiosos antecedentes africanos en Cuba.
¿Nos puede explicar brevemente cómo se ha desarrollado el sincretismo?
¿Cómo los practicantes de las religiones de origen africano se adaptaron y cuáles fueron las variantes, si pudiera decirse, que surgieron en Cuba, en la práctica en Cuba, de esas personas provenientes de África, y cómo eso?
En el contexto africano, las causas consagratorias eran por linajes consanguíneos hacia un personaje importante que dio origen al nacimiento de un grupo étnico, o hacia un personaje relevante en la época histórica como lo fue Changó, que tuvo existencia real. Fue el tercer alafín del reinado de Oyo, pero él marcó una pauta de comportamiento y luego obtuvo seguidores de eso. Entonces es un homenaje de recordación a ese ancestro patrimonial, como patrimonio territorial. En el caso de Cuba, al mutar todo aquello, alternativa de soluciones, evidentemente se vieron obligados a tener que preguntar al Oricha de Consagración, cosa que allá no se preguntaba. Esas son grandes diferencias, que viene a resolver la posibilidad de la continuidad, no solo del culto, sino además a resolver la problemática de esa masa de negros inmigrados y trasladados a Cuba sin derechos, sin seguridad social, sin amparo, sin participación de la cultura de élite, y mantuvieron esas costumbres y tradiciones de esa manera. Ese es un poco, muy a grosso modo, francamente, esto que me pregunta es todo un curso extensísimo para entrar en los detalles de cada una de las cosas que fueron cambiando y por qué fueron cambiando. Pero lo que sí es cierto, que no es posible que tú vestirte así en un país como el trópico te vayas al Polo Norte. ¿Ya? Tienes que asumir aquel tipo de calzado, aquel tipo de alimento, y eso le ocurre incluso a las culturas.
Gracias. Cuídense.
Je vivais un moment difficile. J'allais baisser les bras. Faire ce que les autres voulaient. Mon père m'a dit, ne te laisse pas influencer par les autres. La vie, c'est plus que ça. J'étais à la secondaire en secondo año, c'est l'équivalent de la cinquième en France. Dans ma classe, j'étais la seule blanche, la seule qui m'étudiait, la seule qui s'intéressait aux livres, aux langues, aux musées. Je ne me sentais pas acceptée par les autres élèves. Un jour, ils m'ont coupé les cheveux. Dans la religion afro-cubaine, ils les utilisent pour jeter le sort. Les élèves m'appellent la Blanquita, la Huguesa, mais jamais par mon prénom. Je pense que c'est parce que je suis blanche que les profs me respectaient plus et que les élèves pensaient que j'avais plus d'argent. Je crois plutôt que j'avais une éducation différente et donc des goûts différents. Moi, je voulais faire partie de leur groupe. Je sentis qu'ils ne me donnaient pas la chance de m'intégrer et d'entrer dans leur monde. Et je sentis qu'ils n'ont jamais voulu connaître le mien. Je change de ville et d'école pendant 6 mois. Je suis allée vivre à Pina del Rio avec ma famille. Quand j'ai dû retourner à l'école à La Havane, j'avais deux options. Ou supporter la situation, ou devenir comme eux pour être acceptée. J'ai choisi supporter la situation. J'ai commencé à travailler les cours avec les autres élèves et à partir de là, même si on n'est pas devenu ami, j'ai réussi à gagner le respect. Cette expérience m'a permis de réfléchir à ma façon de faire et d'avoir de meilleures relations. Je remercie mon père et cette expérience car j'ai appris à maintenir un équilibre entre ma vie à l'école et ma vie à la maison. Et aujourd'hui, je suis à l'université. J'ai toujours de bonnes notes et aussi de bons amis.
Bonjour, on est dans la fondation Alero Campetier. On a maintenant un rendez-vous à 10h du matin avec Raphaël Rodriguez-Bertrand. Le thème, c'est la littérature. Raphaël Rodriguez-Bertrand est un enseignant-chercheur de l'Université de La Havane. Il est vice-président de la fondation Alejo Carpentier.
Quelle est la raison pour laquelle Carpentier s'intéressait pour la littérature française?
Bon, en fait, il faut dire que Alejo Carpentier, il est né à Lausanne, en Suisse, en 1904, d'un père français, un architecte, Georges Carpentier, Georges Julien Carpentier, et d'une russe, Ekaterina Vladimirovna Blagobrazova. Qu'est-ce qu'ils faisaient tous les deux à Lausanne? Bon. Elle étudiait la médecine. À l'époque, la médecine était des études qui étaient interdites pour les femmes en Russie. C'est pourquoi elle a choisi un pays de l'Europe de l'Ouest pour faire ses études de médecine, Lausanne en particulier. Et lui, parce que, il était architecte en France, les possibilités de travail, les déboucher n'était pas très, très, très évidente à l'époque. C'est pourquoi il a choisi Lausanne, où à la fin n'était pas vraiment l'endroit idéal. Carpentier naît là, et très souvent, très vite, ils viennent à Cuba, parce qu'à Cuba, c'est la République, c'est le début de toute une histoire, de toute l'histoire républicaine. Il y avait beaucoup de constructions qui étaient, qui se projetaient, du moins. C'est pourquoi ils viennent ici quand il était très petit. À un moment donné, que je peux vous expliquer si ça vous intéresse, il a décidé d'être cubain, de répéter partout qu'il était né à La Havane, à la rue Maloja. En réalité, on sait parfaitement que c'est pas vrai. Pourquoi il s'intéressait à la littérature française? Bon, évidemment, la langue de communication entre les trois, Georges, la mère qui était russe à l'époque, le français est une langue de communication très fréquente parmi les gens de la petite bourgeoisie et de la bourgeoisie, et bien sûr, d'autant plus de l'aristocratie. Donc, ils communiquaient tous en français. La première langue qu'il a parlé, c'est le français. C'est en venant à Cuba qu'il commence à s'intéresser à l'espagnol et qu'il apprend l'espagnol. Et dans le contexte, dans la rue, c'est un processus d'acquisition aussi. Donc il était pratiquement bilingue, parce qu'à la maison c'était le français, dans la rue c'était l'espagnol.
J'ai vécu 8 ans en Algérie avec mes parents. Là-bas je jouais beaucoup au foot, il y avait des bons restos pas chers. Dans la rue, les hommes étaient tout le temps ensemble et les femmes à la maison. Les gens se critiquaient beaucoup et ça me mettait la pression. Heureusement, à l'école, tout le monde était avec tout le monde, puisque c'était une école privée et puis elle était française. Moi, j'aimais bien mon école. En août 2011, je suis revenu vivre à Cuba. C'était plus décontracté, tout le monde parlait avec tout le monde, il y a plus de liberté vestimentaire et je ne sentais pas la même pression au début. À la rentrée, ça a été plus compliqué pour moi. Je connaissais personne et j'avais de nouvelles matières. Il y a plus de matières scientifiques. Et apprendre en espagnol, c'était nouveau pour moi. Je connaissais pas vraiment Marti, Nicolas Guillén ou Fidel, qui étaient des personnalités importantes qu'on étudiait en histoire et en espagnol. J'ai toujours fait beaucoup d'efforts pour ne pas être traité comme un étranger. En Algérie, j'essayais de bien parler l'arabe comme eux, et ça marchait, on me traitait d'Algérien. Quand je suis arrivé à Cuba, il s'est passé à peu près la même chose. J'essayais de parler l'espagnol comme les Cubains. Je faisais très attention à ne pas dire que je venais d'un autre pays. J'avais peur que les gens me traitent avec intérêt. À l'école, personne ne savait que j'avais vécu ailleurs. Seulement les personnes que je connaissais bien et les profs se sont rendus compte à cause des fautes d'orthographe. J'ai connu un pote, je croyais que c'était un ami, mais en fait c'était un intéressé et ça m'a fait apprendre. Ça m'a choqué, ça m'a fait apprendre. Maintenant j'habite avec mes parents et ma grand-mère, et puis j'ai des très bons amis, une petite amie. Et si on me disait de partir encore une fois à Alger, je répondrais que oui, mais juste pour les vacances. Parce que la Havane, je la laisserai jamais.
Este es el policlínico La Rampa.
¿Para qué piso, por favor?
¿Sale ser? Sí.
No te recuestes que abre esa puerta también.
Ya, ya abrirme, ya.
Ahí va Rosa Ramírez, especialista de medicina general integral. Yo trabajo en un consultorio, pero me subordino a mi policlínico, que es este, el policlínico Rampa. Si yo tengo que remitir a algún paciente para el especialista en piel, el angiólogo, etc., yo debo hacer una remisión y mandarla aquí al policlínico para que lo valoren aquí. ¿Entiendes? En caso de mujeres embarazadas, niños y adultos, lo atendemos nosotros. Nosotros atendemos de todo, pero si hay alguna paciente que necesita una atención especializada, de alguna especialidad, ya la mandamos para acá.
¿Nunca ha tenido un caso difícil o que a primera vista no haya sabido la solución del problema?
Siempre hay algún caso difícil, siempre hay un caso que tú no das con el diagnóstico, pero te auxilias también de un equipo. Tú no eres sola, tú no eres maga, tú eres médico, y los médicos también se equivocan. Existen las especialidades para que tú, si tú no sabes o no tienes un criterio exacto de la patología de ese paciente, puedes auxiliarte de un especialista, que para eso están.
¿Qué consecuencias piensas que trae la imposición de bloqueo económico a la hora de la adquisición de equipos o medicamentos?
Hay muchas cosas que son equipos americanos que tienen un uso ya, que tienen tiempo de uso, que son americanos, de los cuales no tenemos piezas de repuesto, entonces hay que buscar alternativas. ¿Entiendes? O comprar por otra vía a otro, o buscar, tratar de comprarlo, no sé, por terceros países, ¿entiendes? Siempre hay problemas por ese tema de bloqueo.
Muchas bueno, gracias.
Pues nada, gracias a ustedes.
Primera persona que
me... Ahora estamos bajando al cuarto piso.
Ahora vamos a oftalmología.
¿Qué te sientes?
Tengo una molestia en el ojo. Fui a la playa y parece que me cayó arena. Y entonces tengo una molestia en el ojo.
¿Cuándo fuiste a la playa?
El sábado.
¿No parece de ninguna enfermedad crónica? ¿Y de los ojos parece alguna?
No.
Siéntate en la lámpara y vamos a observar. Esta es una lámpara hendidura marca Sainz, con la cual se ve el segmento anterior del ojo. La barbilla aquí y la frente acá. Con esto se ve el segmento anterior del ojo. Vamos a inspeccionar. Y acá en el párpado inferior sube, levanta la vista. Tenemos un cuerpito extraño, ¿eh? Parece una pequeña arenilla. Con la cual instilamos un poco de colirio anestésico. Agarramos un aplicador. Y después de un minuto del colirio anestésico aproximadamente, que haya pasado el efecto del medicamento, hacemos así de esta forma y retiramos el... Para prevenir cualquier tipo de sexy ocular después del examen, porque hay alguna pequeña secreción, le indicamos un antibiótico.
Colirio antibiótico.
Una gota. Cada 4 horas por 5 días.
Muchas gracias.
Está terminada la consulta.
Quand je suis retourné vivre à Cuba, j'avais 7 ans. J'ai fait un test de niveau pour rentrer à l'école primaire et on m'a fait sauter une classe. Mon espagnol était correct et mon niveau en mathématiques était supérieur. Du coup, j'étais toujours le plus petit de ma classe. Quand j'étais petit, je sentais la différence d'âge. Je vis dans le quartier de Guanabacoa, un quartier caliente. C'est loin du centre de La Havane. Dans mon quartier, j'utilise beaucoup de gros mots. Et pour dire bonjour, ¡Oye, acere, que voilà, es mío! Dans ce quartier, on n'est pas beaucoup de couleurs blanches. Moi, on m'appelle le Francesito à cause du foot, parce que je suis le seul à soutenir l'équipe de France et le PSG. Le dimanche, à l'Alliance française, je me comporte autrement. Je suis plus sage et poli. Buenos días, ¿cómo estás? J'aime mon quartier, même si c'est pas toujours facile. J'apprends à vivre à la cubaine. Et l'Alliance, j'aime beaucoup y aller. Ça me permet de pas oublier le français, et c'est plus tranquille. En fait, ces deux façons de me comporter font partie de moi. C'est pas un rôle que je joue, ça fait juste partie de ma vie. Il y a 6 mois, j'étais dans un lycée militaire. On se levait à 6h, on avait 10 minutes pour faire le lit et pour se préparer. Après le cours, c'était pareil. On avait 30 minutes pour prendre une douche. Et on était 75 personnes pour seulement 5 douches. Dans la nuit, si un de nos camarades faisait des bêtises, les militaires nous faisaient courir 45 minutes, nettoyer les toilettes et marcher pendant 1 heure. Alors imagine comment c'était pendant la journée. L'école militaire, c'est l'école qui a le plus haut niveau scolaire à Cuba. Tous les profs étaient super, mais j'ai pas supporté la discipline et les militaires. J'ai connu des styles de vie différents, je me suis adapté à plusieurs contextes, mais je suis parti de l'école militaire. Moi, je peux m'adapter à tous les endroits où je vais, mais il y a des contextes où je n'ai pas envie de m'adapter. Ce n'est pas que je ne peux pas, c'est plutôt un choix.
Pour entrer à l'école de musique, j'ai dû faire un examen de musicalité. On me disait de répéter ce rythme. Et j'étais accepté. Ensuite, on m'a demandé les instruments que je préférais. Et j'ai choisi flûte, clarinette et saxophone. J'ai passé un examen physique. On m'a fait souffler dans tous les instruments avant. Le jury a regardé ma bouche, mes dents, et ensuite la position de mes doigts sur l'instrument. Le résultat disait mon nom et à côté saxophone. Depuis 9 ans, j'étudie la musique au conservatoire Alejandro García Catul. On avait des cours généraux le matin et des cours de musique après-midi. Aujourd'hui, je suis à l'École nationale des arts de La Havane et je joue toujours des saxophones. Les jurés ne se sont pas trompés. Je crois que j'ai des facilités pour jouer les saxophones. Et puis, je suis motivé. Quand je joue un livre ou un professeur absent, je joue. La musique, c'est ma passion et j'espère être musicien professionnel.
On est dans la salle de répétition du groupe Carpe Diem avec Pablo, pianiste et directeur artistique, Royman au cajón et Diana à la basse.
Vamos a interpretarle una pieza de nuestra propia inspiración. Es una pieza instrumental que es un danzón, un género de la música tradicional cubana, que a su vez es el baile nacional de Cuba, el danzón. El nombre de la canción es Rainbow, y en francés c'est la canciel.
Desde un punto de vista novedoso y tratando de asumir la música tradicional cubana con una nueva cara, ¿no? De como los arreglos de los temas, que son bien tradicionales, tuvimos un gran reto de como mezclar las influencias de la música latinoamericana y las influencias del jazz de los Estados Unidos.
Voyager beaucoup, non?
Nous n'avons pas joué à l'étranger, mais moi, comme artiste indépendant, j'ai voyagé en tournée. J'ai joué dans une orchestra de salsa.
A ver, ¿por qué ustedes interpretan la música tradicional cubana?
Más bien, primeramente porque somos cubanos. Y como ahora está viniendo un mercado
grande de extranjeros, europeos, americanos, creemos que lo primero es demostrarles la música que nosotros aprendimos en la escuela, que es la música cubana. Después la música popular, que no la estudiamos en sí fuerte fuerte en la escuela, pero sí teníamos mucha influencia cuando íbamos a los conciertos, a los joyas. Y creemos que primero debemos defender esa música.
Y dar a conocer al mundo, ¿no? La riqueza de la música tradicional cubana.
Quand j'étais petite, j'étais hyperactive. Alors j'ai fait plein d'activités pour utiliser mes énergies de manière productive. C'est comme ça que je commençais à l'Alliance française, à fréquenter des cours de dessin, des chorales. J'ai toujours été très occupée. Actuellement, je continue à étudier le français. Aussi l'anglais. Je prends des cours de théâtre et je participe au concours Voices, où il faut chanter. Quand je n'ai rien à faire, je me sens bizarre. Si je passe deux jours sans rien faire, je commence à me sentir anxieuse. Je n'aime pas cette sensation et c'est pour ça que j'occupe de plus en plus mon temps. Et j'aime ça. Je n'aime pas être seule. Je sors que s'il y a mes amis, mais j'ai beaucoup moins de temps libre qu'eux. Des fois, ils changent leurs horaires pour que je puisse aller avec eux. Des fois, je ne peux pas sortir à cause des activités. Des fois, je ne vais pas aux activités pour sortir avec eux. C'est aussi très important de passer du temps avec ma famille. C'est essentiel dans ma vie. J'adore avoir beaucoup d'activités, même si c'est compliqué. Je me rends compte qu'avec autant d'activités, je ne laisse pas de place à l'imprévu. J'aimerais pouvoir sortir plus avec mes amis. Et quelquefois, je sens que ça me ferait du bien d'être seule, même si c'est pas souvent.
Vivre ici, vivre là-bas.
Vivre ici, vivre là-bas.
Avant de finir, un grand merci à toute l'équipe qui a participé à la réalisation de cette émission.
D'abord, les adores.
María Fernanda.
María Carla.
Jorge.
Brianne.
Medel.
Claudia.
Carlos.
Yaima.
Giselle.
Isabella.
Aitana.
Débora.
Nous remercions également l'Alliance française et nos professeurs.
Beatriz. Laura.
Yanelis.
Leisa.
Et Jenny.
Merci à l'association OACADI.
Et à Capucine de nous avoir aidé à réaliser cette émission.
Au revoir.
La semana que viene me voy para Francia. ¿Qué quieres que te traiga?
Agacha.
Una foto de... ¿Cómo se llama la torre? La Torre Eiffel.
Claro, cualquier souvenir de eso, de la torre.
Un balón de fútbol, cualquier cosa, cosa de Francia.
Que me hablara con él para conocer también Francia.
Ella dijo que si iba a Francia y me podía traer un regalo, yo le diría que me trajera la Torre Eiffel entera. Es un problema de ella.
¿Dónde la pusiera?
En mi casa.
Gracias.
El problema se lo va a buscar ella.